reprenons seulement quelques instants plus tard, mes adorés auditeurs. Bien que toujours au sein de la capitale, nous voici à présent projetés dans une lointaine rue pavée, bordée de hautes maisons urbaines aux pierres grises, riches en reliefs, bossages, ferronneries et autres ornements. Et dans cette rue-là, aucune présence humaine n'était alors décelable, eût-elle été vivante ou zombique. Ajoutons que, sur place, l'air était comme brumeux, car chargé de la fumée des braises de quelques incendies déclenchés la veille, après que 3 immeubles furent investis par des hordes de revenants fort maladroits. Enfin, cette rue, dont le raffinement toujours décelable témoignait de la richesse de ses habitants, se trouvait n'être pas moins que la chaussée délimitant les quartiers Est et Ouest. Et nous y arrivons pile à temps, mes ardents admirateurs, pour percevoir le bruit lointain de pas qui approchaient.
C'est bon, on les a semés, on les a semés.
Oui, dis, on ferait pas une pause des fois?
Ouais, le secteur a l'air calme. Motion acceptée.
Les deux compagnons, à bout de souffle, s'assirent chacun sur une pierre, au bord du trottoir, à l'endroit même où ils s'étaient arrêtés. Car oui, moult pierres se trouvaient là, de tailles diverses, et éparpillées en pagaille jusque sur le trottoir d'en face, vestiges navrants d'un luxueux immeuble, à semi en ruine, mais qui, la veille encore, se dressait là, majestueux. Triste souvenir, en somme, de ce qui n'était désormais plus que 4 murs noircis et par endroits effondrés, décombres dont ne subsistait plus autre trace des sols et combles que d'occasionnelles névées cendrées.
On aurait peut-être dû passer par les égouts, finalement.
L'odeur des incendies moribonds, âcre et pénétrante, comme si un millier de coccinelles fût écrasée tout autour de nos deux fugitifs, était très incommodante. Du reste, l'on y voyait mal enveloppé dans toute cette fumée et cette poussière. Mais sa vue s'était peu à peu faite à la pénombre, et Colin finit par remarquer à ses pieds un objet partiellement enseveli sous les cendres.
Tiens.
Quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé?
Oh, rien d'important. C'est juste un cruchon en laiton. Ils doivent dire de l'un des appartements de cet immeuble qui a brûlé. C'est drôle, hein, sa forme et puis les motifs de ses gravures. J'ai très exactement le même chez moi. Une pièce unique, m'avait dit l'artisan. Tu parles, hein.
Hein? C'est vrai qu'il y a plein de bidules, en fait, parmi les décombres. Des armoires en morceaux, un lustre là-bas. Oh, et même un grand lit, là, tout au fond.
Allez.
Oui, c'est dingue. Il est complètement intact, encore posé sur une parcelle de sol au sommet de cette pile de débris là-bas. Sans doute qu'il vient du dernier étage, et que le morceau de plancher qui soutient ce lit s'est détaché en restant bien droit, jusqu'à retomber encore parfaitement horizontal au niveau du rez-de-chaussée. On aura vu ça avant de mourir, dis donc.
Mais attends, c'est mon lit ça? Et là c'est mon cruchon? Et c'est ma rue également, mais alors c'est mon immeuble?
Hein? Ah ben mon cochon, tu te faisais pas chier. Je crois me souvenir que c'était plutôt classieux comme résidence.
Ah merde. J'ai le dos radote un peu, mais quitte à faire une pause, ne pourrions-nous pas...
Quoi? Chercher ton or? Tu crois que c'est le moment?
Oui, je sais. Ah, mais quand même, hein, tout ce travail accompli, juste un coup d'œil rapide, quoi.
Mais si c'est ton lit, ça veut dire que tu vivais au dernier étage. Comment veux-tu qu'on y monte? Toute la boiserie a cramé. Y a plus ni plancher, ni escalier.
Oui, mais non, le lit, justement. J'ai quelques lingots planqués dans le matelas.
Ok, fais vite, hein. On a plus urgent.
Aïe, il y a une bourse de 40 écus à l'intérieur de chaque oreiller aussi.
Ah bon, ouais, très bien.
L'une des boules du lit se dévisse également et... Elle est pleine de pierres précieuses, tu vois. Et j'ai failli oublier, sous le lit également. Voilà, le pot de chambre a un double fond qui cache quelques bijoux que je gardais pour les mauvais jours.
Mais merde, c'est plus un plumard à ce compte-là, tu dors sur une banque.
Oui, si on veut. Voilà, j'ai tout, j'arrive.
Si ta Marianne te voyait...
Eh ben justement, dis-toi qu'elle serait contente de me voir penser à notre avenir à long terme, hein.
Pff, t'as l'air malin avec tes poches toutes gonflées. On dirait que t'as des formes de femme.
En parlant de femme, je suis trempé, moi, qu'est-ce que j'ai chaud. Ça te le fait pas, toi?
Non, c'était sûrement les feux des incendies qui couvent encore sous les décombres que tu as escaladés, c'est tout.
Non, je crois pas. Je me sens fiévreux depuis ce matin. J'ai dû choper un parasite quand on crapahutait dans la vase de la grenouille hier, hein. Super. Mais bref, tirons-nous avant que...
Quoi? Avant que les zombies nous aient retrouvés?
Mais oui, ça te pose un problème? Et quoi, pourquoi tu t'agites comme ça? Quoi, derrière moi, je...
Non seulement derrière Colin, mais tout autour de lui et de sa partenaire. Des amas de cendres, au centre des incendies défunts, se mirent à paraître soudain, non des myriades, mais néanmoins en nombre, des trépassés du genre humain. Se glissant en silence hors des tas de cendres sèches, des morts vivants, ainsi blanchis bien que leur cuir fût à demi-cuit, se mouvaient, sans un semblant d'hésitation. Et tout en déployant d'occasionnels filets de poussière autour d'eux, les revenants rissolés, presque souriants et ravivés à l'instant, s'avancèrent vers la cible atterrée qu'ils avaient cernée sans qu'elle ne s'alerta.
On est tous les deux trempés maintenant, si ça peut te consoler.
Moyennement.
Quelle terrifiante situation! Comment lutter face à une telle armée? Car il ne s'agissait pas là d'affronter de simples zombies! Nos compagnons n'avaient pas affaire à des dépouilles réveillées sauvages par quelques toxines ou malédictions! Non, loin s'en faut, mes doux disciples! Le démon Mont-Saint-Clair. Esprit né des premiers âges de l'univers, sans doute le plus inventif après celui qui créa le monde physique! Mont-Saint-Clair, oui, le grand seigneur des fléaux, le démon, l'ubiquitaire, lui qui seul put jamais réussir à approcher de si près la possession de masse. Car c'est en maniant avec maîtrise la courbure des flux cosmiques qu'il parvenait ainsi à mouvoir des armées entières, modélisant un algorithme magique si précis que chaque zombie n'avait plus qu'à s'y lier pour y trouver la volonté pour se mouvoir et les manœuvres à accomplir. Ainsi le démon centralisait-il tous ses commandements dans une construction semblable à une partie recopiée de son esprit, laquelle agissait constante dans le plan de l'invisible. Oui, mes fidèles auditeurs, les zombies qui encerclaient nos deux embusqués n'avaient ce faisant rien d'ordinaire, et en fait d'arriérés pourrissants réunis par simple conjoncture, ils étaient en réalité des pantins mus sous la coupe d'une stratégie définie.
Ah, et merde! Au point où c'en est, je vais tenter un truc!
Quoi? Mais Colin, t'es fou! N'avance pas vers eux!
Mais pourtant si! Exténué, en fièvre et dégoulinant de sueur, le délégué aux affaires non naturelles sembla déraisonné!
Ce ne sont que des zombies, soufflade. Mais au fond, sous prétexte que ce sont des monstres et nos adversaires, nous n'avons pas même une fois tenté de discuter avec eux.
Discuter? Avec des zombies?
Regarde, c'était des gens avant, comme toi et moi. Peut-être qu'il leur reste assez de personnalité pour que nous puissions négocier avec eux, hein. Hola, noble revenant. Que diriez-vous de faire une trêve en échange de ces belles bourses? Elles contiennent chacune 50 écus d'or. Cela en fait 100 en tout, vous feriez bonne affaire.
Hein? 50? T'avais pas dit 40 tout à l'heure? Et s'ils comptent?
Quitte à prendre des risques, je mise également sur le fait que ces gens étaient nuls en maths de leur vivant, ce qui est assez courant.
Hein, ou qu'ils ont oublié comment on pratique un comptage?
Oui, ça aussi, tu as tout...
Le zombie le plus proche de l'inquisiteur avait sans prévenir bondi vers ce dernier pour le frapper violemment au visage. Et tout d'ensuite, sans laisser à quiconque le temps de l'appréhender, le dit mort-vivant et deux de ses collègues à proximité se jetèrent sur notre pauvre ami et lui infligèrent plusieurs morsures profondes, lui arrachant ainsi de la chair au bras droit, dans le cou, ainsi que son oreille gauche en entier. Atroce horrifiée de l'atroce agression qui se déroulait sous ses yeux, et sans qu'elle n'eût pu réagir tant elle était désorientée, la malheureuse soufflade en avait hélas oublié de veiller sur elle-même, et le reste de la horde de zombies cendrés avait se faisant resserrer son encerclement autour de la mutante. Et quant aux trois agresseurs, constatant que Colin, en sang, épuisé et à demi évanoui, était visiblement hors jeu, ils le projetèrent violemment contre la façade voisine avec une force étonnante avant de rejoindre les autres. Mais la pauvre trentenaire numide n'eut le temps d'aucune invocation, non! Car déjà, toute la meute féroce s'était jetée sur elle, appétissant friandise qu'ils déballèrent.
Merci, j'ai pas d'araignée!
Oh, mais quelle tragédie, m'étendre la pinou! Oui, j'en conviens, mais... Tiens, qu'est-ce que... Ah, mais oui, c'est vrai! Chut, faisons-nous discrets, mes auditeurs! Et tandis que ces hideux zombies se repaissaient de chair, éloignons-nous de quelques pas pour nous diriger vers l'agonisant Colin Mulot, gisant juste à côté, affalé sur le dos parmi des débris d'éboulement. Oh mais quelle horreur! Notre pauvre ami, soudainement, venait de prendre feu! Tout entier, immobile, il se consumait, impitoyablement léché par des flammes ocres et dévorantes! Et ses vêtements tombèrent en poussière, tandis que roulait hors des poches calcinées du fonctionnaire le butin d'or et pétro-précieux qu'il avait réuni plus tôt. Et juste à côté, les morts-vivants que de nombreuses éclaboussures de sang avaient partiellement lavés de leur blancheur poursuivaient leur mission, tâchant de tasser en eux l'espace qui, encore tantôt, constituait l'être nommé Soufflade, oui. Et un court instant passa ainsi. Et puis soudain, mes petits bouchons, un inattendu et dévastateur souffle de flamme vint à balayer les pourrissants prédateurs, les carbonisant instantanément. Chus sur le sol en quelques petits amas de cendres, les restes des zombies se virent par un coup poussés en arrière par la légère brise qu'avait fait se lever ces perturbations thermiques. Et ainsi découvrons-nous... Oh pardon, pardon mes auditeurs, mais c'est tellement incroyable. Je doute que beaucoup d'entre vous n'eussent jamais pu le voir venir. Ah, toutes mes bravotations sinon, mais... Oui, dans le dos de la meute, responsable de leur crémation, debout et bien droit au milieu de cette rue se tenait une torche humaine, mes fidèles spectateurs. Cette forme paraissait telle la silhouette d'un homme, entièrement rouge, et dont on ne pouvait percevoir que les contours, lesquels se trouvaient être constamment nappés de flamèches orangées. Et cet humain sans dit tenait encore un bras levé en direction de ses victimes. Mais il le baissa lentement, maintenant que les monstres n'étaient plus, pour finalement le ranger calmement le long de son corps.
Si j'avais su... Si j'avais jamais cru cela pensable...
Tournant les talons, Colin, devenu visiblement un homme de feu doué de pyromancie, fit quelques pas, tandis que ses blessures guérissaient à vue d'œil. Il s'accroupit à côté des petits tas de richesses tout juste tombés de ses poches, puis plongea la main dans l'un d'eux. Il n'en ressortit cependant qu'un seul objet, oui, une minuscule pierre, laquelle, étrange, émettait une faible lueur verte. Et ensuite, l'homme enflammé rangea cette dernière dans le creux de son poing qu'il garda bien fermé. Puis, il reprit la marche. Il quitta ainsi sa rue, empruntant un petit croisement un peu plus loin, pour enfin braquer droit vers l'ouest.
Au même instant, non loin de là...
Oui, fort proche même. Nous nous trouvons d'ailleurs à présent, mes bien-aimés auditeurs, dans une petite rue commerçante où se suivent, accolés et bien alignés, une série de bâtisses en pierre dont le rez-de-chaussée est souvent utilisé pour accueillir un magasin ou un atelier d'artisan. Eh oh !
Mais poussez-vous, mon vieux ! On essaye de fuir une armée de zombies, nous !
Faut pas rester là, monsieur, c'est dangereux !
Merveilleuse transition, n'est-il pas? Mais n'ayez crainte à mes tendres spectateurs, car notre présence, à vous et moi, à l'intérieur du récit, ne constitue évidemment qu'une projection narrative. Il va bien sûr de soi que nous ne nous trouvons pas réellement dans cette rue, ici, à cet instant, et que ces zombies ne vont rien pouvoir nous faire. Cependant, par simple prudence, je ne saurais que trop vous encourager à courir jusqu'à ce que la séquence se termine.
Regarde là-bas! Planquons-nous dans ce restaurant!
Ouais, bonne idée! Il a déjà été pas mal barricadé, avec ses fenêtres couvertes de planches clouées, là!
Oui, déjà ça! Mais ce bâtiment se trouve être comme il en avait l'air, désert! Les occupants ont dû s'enfuir dès que les environs ont été plus calmes dans la matinée ou je ne sais pas quoi!
Tant mieux! Ça nous laissera un peu de répit le temps de décider comment on va s'organiser pour la suite! Et puis, vu que c'est un resto, on va sans doute pouvoir se remplir la panse au passage, hein. Et il y a sûrement plein de bouffe dans le cellier, hein. Et gratos en plus, hein.
Oui, et peut-être aussi de l'alcool. Ça aide à mieux supporter les gens lourds.
Ouais, ça tu peux le dire, hein, c'est sûr. Bon, allez, passe-moi vite ces chaises, là. Je vais bloquer la porte.
Ah ouais, merde, on entend les zombies qui reviennent.
Absolument manifestement, oui. Des nuées de morts-vivants s'étaient soudainement mises à poindre pour ensuite se ruer contre la façade du petit restaurant. Et oui, hélas, les premiers rangs des fantassins méphitiques ne s'étaient point fait duper. Ils avaient eu le temps, l'instant d'avant, d'apercevoir nos malchanceux amis alors qu'ils entraient dans l'établissement susdit.
Ils sont trop nombreux. La façade va céder, on dirait. Ah, vu l'urgence, ça va nous faire court pour l'organisation et la collation, hein. Va falloir songer à sacrifier au moins l'un des deux. Mais le choix est dur.
Merde, c'est la poisse. La seule entrée est à l'avant, tous les autres murs sont pleins.
Bah, avec mes super yeux laser et tes petits tours de passe-passe, on devrait pouvoir gérer ces zombies-là aussi, hein. C'est juste que c'est épuisant en continu comme ça.
Ouais, un peu d'aide ne nous ferait pas de tort. Je me demande vraiment où est parti le superluge.
Quoi ?
Oui, un étonnant et brusque changement de situation était en effet en train de s'opérer de l'autre côté de la façade assiégée, mes élogieux allocutaires, oui. D'un seul coup, une épouvantable odeur, immonde mélange d'œufs pourris et de viande brûlée, se mit à envahir les environs. Une lueur vive, émise dans la rue, éblouit nos amis bien qu'elle ne passât dans plus que des interstices pour gagner leurs yeux. Et l'air sembla soudain bien plus chaud, le front de Marianne en vint même à perler. Cette dernière, et binocle également, laissèrent ensuite s'écouler un court instant pour s'en assurer, mais oui, c'était bien désormais le silence qui régnait à l'extérieur, suite à l'étrange phénomène pyrotechnique qui venait d'y avoir lieu.
On dirait que les zombies sont tous morts. On est débarrassés d'eux.
Hé, tu penses à ce que je pense?
Oui, une telle vague de flammes, c'est probablement Monsieur Berlu qui est revenu.
Ah, non, hein, on pensait pas pareil en fait.
Monsieur Berlu, c'est vous qui...
Et non, vous vous en doutez. Nul vieillard barbu n'attendait dans ce bout de rue, à présent tapissé de cendres, de traînées noirâtres et de braises. Marianne fut déconcertée à la vue de la forme impassible qu'elle y trouva lui faire face, à quelques mètres de là, une silhouette rougeâtre nimbée de flammes. Le spectre s'eût dit, en la personne de Colin, levant la tête, tressaillit d'un coup d'émotion à la vue de son aimé en manteau marron, dans ces tons-là, quoi, hein. Oui, ne m'en veuillez pas, mais je ne suis pas non plus teintologue. Bref.
Marianne, c'est moi.
Colin, mais je... Qu'est-ce qui t'arrive?
Hé, hey Marianne, c'est bonheur là-dedans. Je me suis trouvé une petite amphore de vin blanc et un jambon particulièrement savoureux. D'ailleurs, j'ai vu traîner une vieille salade dans un coin. Si tu veux, je te la ramène, hein.
Non, ne m'approche pas, Marianne. Je sais que je suis irrésistible, hein, mais je suis pas trop sûr de ce qu'il m'arrive et de comment ça marche. C'est sûrement dangereux de me toucher pour l'instant.
Bah, à qui tu parles? Et c'est qui ce gars? Et c'est quoi son problème?
C'est bon, merci. Rengaine ton jambon, Binocle. C'est Colin.
Hein?
Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Un mauvais sort? Une maladie due aux zombies?
Ou d'un coup de soleil persistant, peut-être?
Non, non, c'est idiot. C'est sans doute à cause de cette maudite pierre.
Et à l'inquisiteur de tendre la main qu'il gardait fermée, pour ensuite en ouvrir la paume lentement, et dévoiler ainsi à ses amis la mystérieuse petite pierre verte luminescente qu'il avait emportée.
C'est...
Putain, Colin! T'es con, quoi! C'est l'une des pierres vertes de Jean Grunt! Il en manquait donc bien une de plus au temple! Et c'est toi qui l'avais prise!
Et oui, moi, dès que ça brille, hop, je chaparde, hein. C'est un vieux réflexe.
Eh ben, te v'là beau, hein!
Tu fais donc apparemment partie de ces rares personnes chez lesquelles ces pierres éveillent un pouvoir mutant latent, on dirait, si j'en réfère à ce qu'on nous a appris aux Landes imbibées.
En tout cas, c'est assez ironique que ce soit Monsieur l'Inquisiteur, le saint patron des bûchers, qui se retrouve avec un pouvoir de pyromancie, hein.
Oh, ça va.
Et en plus, mais t'es à poil sous tes flammes, en fait. On a beau distinguer que ta silhouette, si on se tient là et qu'on te regarde pile de profil, eh ben, on peut carrément voir la forme de ta bite.
Mais c'est vrai, en plus.
Là.
Mais tiens, au fait, en parlant de bite, je m'étonne que le sol soit encore sec. Où est donc passée cette connasse de soufflade?
Ah... Comment dire?
Oh là, étranger, plus un geste!
Hein, mais...
Non, non, Binocle, stop! Marianne, ne fais rien, tout va bien. Ce sont des collègues.
Quoi, mais cette voix, c'est vous, patron? Mais où étiez-vous tout ce temps? Et qu'est-ce qui vous est arrivé?
Une légère mutation, dirons-nous. Nous en parlions à l'instant.
Eh ben, c'est pas banal, hein. Mais bon, ça va, c'est pas illégal, ça, hein. C'est pas de la sorcellerie, la mutation, hein. Et en plus, c'est marrant, hein. Vous êtes toujours dans les tons rouges, hein, vous dites donc, hein.
J'avais pensé aussi te faire la vanne, mais j'ai pas osé, finalement.
Oh, mais patron, là, avec vous, c'est pas cette sorcière du bois de l'Ouest qu'on devait surveiller? Et puis, c'est vrai, mais je veux pas dire, mais le grand, là, avec ses yeux bizarres, il vient quand même de buter Jean-Louis, là.
Mon cher petit sbire, Edin, je vous renvoie aux conclusions définitives de mon rapport sur la sorcière, enfin, sur l'herboriste suspensionné, et qui n'a pas été reconnu comme un sujet dangereux. Et de deux, quant à ce citoyen, étrangement vêtu. Il est également mutant, hein, et je suis navré pour Jean-Louis, mais il me semble clair et sans appel qu'il s'est ici agi d'un simple accident, non ?
Ouais, voilà, le coup est parti tout seul. C'est malin aussi, hein, de faire sursauter les gens comme ça.
Voilà, l'incident est donc clos.
Ouais, même que je suis tout bouleversé émotionnellement maintenant. Et le sursaut m'a fait tomber le jambon des mains. J'exige réparation.
Mais, et que faites-vous ici au fait, vous et ces deux miliciens qui vous accompagnent ?
Dont un mort, qu'il vaudrait d'ailleurs mieux décapiter, non ? Avant qu'il ne se change en zombie.
Ah, pour ça, rien de plus simple, attendez. Et hop, un plomb dans la tête, et il ne se relève jamais plus. Pratique, hein, ces armes de chasse, hein. Ah, je comprends pas qu'on ait jamais pensé à en utiliser pour la guerre avant. D'ailleurs, vous le reconnaissez, patron ? C'est le fusil que j'avais saisi lorsqu'on enquêtait au château, là.
Ah oui, le château, je n'y pensais plus. C'est là que nous devons nous rendre, justement. Et vous, pourquoi traînez-vous dans ces rues, au fait ?
Eh bien, boss, figurez-vous que nous étions en train de patrouiller.
Ah ? La milice a maintenu les patrouilles malgré la situation.
Oh, non, nous sommes là en tant qu'éclaireurs pour quelque chose de bien plus grand que la milice, hein. D'ailleurs, c'est une aubaine, hein, vous feriez tous les trois d'excellentes recrues.
Comment ça, des recrues ? De quoi parlez-vous ?
Oui, c'est sûr. Deux mutants balèzes plus une herboriste pour soigner, ah, vous serez très utiles, hein. Allez, je vous invite à nous suivre jusqu'à notre camp. Tout vous sera expliqué une fois sur place, mais considérez que vous êtes désormais conviés à rejoindre la résistance de la capitale.
Hein ? La quoi ?
Ben cool, ça va me changer d'être pour une fois celui qui est recruté, hein. C'est sûrement moins de responsabilité.
C'est décidé. Allez, suivez-moi. Et en plus, ça devrait vous plaire, hein. C'est tout près du château.
Saisissant l'occasion d'être escortés en sécurité jusqu'au lieu de leur rendez-vous, Colin, Binocle et Marianne jouèrent le jeu et suivirent les deux miliciens qui leur ouvraient la marche. Et ainsi, après avoir parcouru prudemment quelques rues, aussi peu à découvert que faire suppu, nos amis arrivèrent-ils enfin au campement susmentionné. Il s'agissait d'un repère à ciel ouvert, en l'endroit d'une petite place, ornée d'une statue de truite géante au milieu et qui faisait carrefour entre plusieurs rues et ruelles convergeant là. Chacune des dites intersections se trouvait être fermée par une imposante barricade, amas de pavés, de meubles, de chariots, de caisses en bois de toutes tailles et même de quelques moutons castrés par-ci par-là. Lesquelles barricades donc étaient farouchement gardées par des hommes en armes, mais du genre qui ne plaisantait pas.
Ah. Quel est le mot de passe ?
Salut René ! Le mot de passe est BLEUR !
C'est bon, vous pouvez passer.
BLEUR ! Mais il veut rien dire votre mot de passe !
C'est pour ça qu'il est génial ! Impossible à deviner !
Mais puisque ces monticules escaladés, nous nous trouvons maintenant à l'intérieur du camp, observons un peu, voulez-vous ? La petite place avait été aménagée grossièrement en fait, hein, visiblement dans l'urgence, car seules quelques tentes, tables, chaises et tonneaux de bière étaient dispersés là sans logique apparente. La faune locale, éparpillée parmi toutes ces choses, se composait très majoritairement des miliciens survivants, soit une centaine d'hommes très reconnaissables par leur tunique bleue. Cela dit, de nombreux gardes royaux se trouvaient là également, eux identifiables par leur tunique bordeaux. L'on pouvait également voir, ça et là, quelques civils venus chercher refuge sur place et dont une poignée semblait avoir pris les armes pour la cause.
Ah, je le vois, il est là-bas. Venez !
Bientôt, nos amis en vinrent à faire enfin halte, une fois que leur guide fut arrivé à proximité d'une large et solide table en bois sur laquelle était penché un homme, manifestement concentré sur la consultation de documents. Ce personnage, au demeurant impressionnant, portait une lourde armure en fer, encapée de bleu, ainsi qu'un homme garni d'une crête en plumes sciant. Ah, mais qui pouvait donc bien être cet étrange et stoïque chevalier plein de mystères qui...
Oh, bonjour, capitaine Kerry. Aïe, on est rentré de patrouille. Alors bon, on a perdu Jean-Louis dans l'action, mais au moins on vous ramène une bonne surprise qui devrait sans doute vous consoler.
Me consoler ? Soit, voyons donc cela. Que me ramenez-vous ? Une gueuse ?
Mademoiselle est une mage fleuriste, là, et sa magie pourra sûrement nous aider.
Je suis herboriste, mais oui, je connais aussi quelques sorts de soins comme l'attaque.
Intéressant.
Mais je vous ai pas déjà vu, vous, il y a longtemps, à ma cabane ?
Et ici, tiens, un ancien témoin qui refait surface.
Ah ouais, ça faisait longtemps.
Ce monsieur peut cracher une espèce de jet de feu avec les yeux, tout ça, et c'est redoutable et mortel, hein.
Je veux, ouais. Et puis, à faible dose, mes rayons peuvent aussi servir à griller les saucisses. C'est super pratique, ça, pour les étapes sauvages en voyage.
Et pour ma part, je vous salue, capitaine. Oh, je comprendrais que vous ne me reconnaissiez pas, mais c'est moi, l'agent Colin Mulot, le délégué à la régulation des activités non naturelles.
Comment ? C'est vous, Mulot, mais comment justifiez-vous cet accoutrement ?
Oh, ne risquons pas de nous attirer sa méfiance. Eh bien, mes enquêtes m'ont mené à m'assurer que les légendaires capacités des mutants des Landes imbibées relèvent bien de la non-sorcellerie, hein. Oui, d'où donc cette apparence atypique, savamment endossée, pour les étudier sous couverture, tout ça.
Soit. Le déguisement est convaincant, je reconnais bien là votre zèle habituel. Heureux de vous revoir, agent Mulot.
Merci, capitaine, et bonjour, sergent Barnabé.
Bonjour.
Mais, capitaine, pourquoi le sergent Barnabé est-il ficelé dans le dos à l'un de vos avant-bras ?
Ces temps de crise nous ont laissé peu d'occasion de nous fournir en équipement lourd. Et en tant que chef irremplaçable, il me fallait une protection. J'ai donc fait du sergent Barnabé mon bouclier humain personnel.
Ouais, le chef il m'a donné une super promotion.
Félicitations, hein, sergent.
Par contre, je dois aller aux toilettes. Vous pouvez me détacher, dites, hein, capitaine. Ah, merci.
Bref, toute l'aide que peut recevoir la Résistance est bienvenue. Vous êtes donc tous les trois réquisitionnés à partir de maintenant et ce n'est pas négociable.
D'accord, c'est bien beau, mais c'est que nous avons une mission plus importante.
Ce que veut dire mon ami, enfin cette civile, capitaine. C'est que nous avons une opportunité de servir la Résistance d'une façon bien plus optimale, en nous rendant sans tarder dans un certain lieu où nous pourrons vraisemblablement contribuer à endiguer le problème, disons, au niveau de sa racine.
Comment cela ? Expliquez-vous.
Figurez-vous qu'on est sur le coup avec l'enchanteur Berlu Leblanc. Eh ouais, mon bon monsieur.
Qui cela ? Archibald Berlu ? Le druide qui a jadis libéré Voisinia de son fléau ?
Lui-même. Nous devons le rejoindre à l'entrée du château. Vous n'allez pas vous y opposer ?
Vous délirez, mes pauvres. J'ai vu le cadavre de cet enchanteur de mes yeux il y a 11 ans. Et vous aussi, d'ailleurs, le mutant, puisque c'est vous-même qui me l'aviez signalé.
Ben ouais, mais je...
Il était tout ce qu'il y a de plus mort. C'est moi-même qui l'ai fait transporter au funérarium, après quoi il a été inhumé au cimetière municipal.
Mais si je peux me permettre, c'est du cimetière que semblent être sortis les premiers morts vivants hier, quelques heures avant l'invasion, si on en croit certains témoins. C'est donc à dire que votre enchanteur, là, il est vivant parce que... il est un zombie ?
Effectivement. L'est-il ?
Non, il est bien vivant et...
Ah, une cloche sonne et tout le monde s'agite. C'est sûrement l'heure de la soupe, j'imagine.
J'aurais bien aimé, mais non, regardez !
Mais comment ne l'avons-nous pas vu ? Le campement est déjà à moitié envahi de zombies !
Comment est-ce possible ? Pourquoi l'alarme a-t-elle été sonnée si tard ? Et non dès l'approche de ces monstres à l'extérieur des barricades ?
Ouais, bizarre ça ! Il y a des vigiles partout sur place en plus !
Et même sur les toits alentour, ça n'a aucun sens !
La seule explication, c'est que ces morts-vivants connaissaient le mot de passe. Voilà comment ils ont pu entrer sans éveiller les soupçons. Jusqu'à ce qu'ils commencent à manger tout le monde, en tout cas.
Non. Vous pensez vraiment que ces zombies ont pu deviner votre mot de passe ? Blaaaaaah ! Ce terme est de toute évidence bien trop crypté pour leur langage si articulé.
Oui, je suis d'accord avec vous. Il est désormais évident que l'une de ces abominations nous espionnait pendant que je formulais le mot de passe tout à l'heure, lors de notre arrivée au camp. Ha ! L'ennemi est plus rusé que nous le pensions, hein ?
Trêve de parlotte, aux armes tous! Défendez le campement! Défendez ce qu'il reste de vivant, la capitale! Et vous trois aussi!
Capitaine, je vous en conjure, le temps presse! Laissez-nous poursuivre notre mission!
Oui, laissez-nous aller au château! Ne comprenez-vous pas? Nous devons combattre leur chef!
Foutaise! Le seul combat que je vois est ici, et rien ne demeure au château! Il n'y a plus ni souverain, ni régent, et les domestiques ont fui durant la nuit! La seule présence sur place est celle d'une femme, une errante dénudée que les vigies ont vu passer la grande porte à l'aube. J'ai envoyé 6 hommes l'arrêter et ils ne sont pas revenus. Ils doivent prendre du bon temps, c'est tout ce que vous trouverez en allant là-bas. Alors, assez de Jérémiade et rendez-vous vraiment utile. Aux armes ! Aux armes !
Hein ? Quoi ?
À la surprise générale, une forme fantomatique apparut de nulle part, s'était soudain mise à fuser en les airs, à quelques mètres du sol, voyageant vélocement à différents emplacements du campement.
C'est lui ! C'est Monsieur Berlu !
Comment ?
Cette forme, effectivement blanchâtre, volait cependant si vite ! Comment en être sûr ? Et que... Mais si ! Il semblait bien qu'il s'agissait de l'enchanteur Berlu ! En fait, il se déplaçait, lévitant, suivant les barricades, du moins celles que les zombies engorgeaient le plus massivement, et il paraissait, à chaque fois, laisser choir parmi leurs rangs un petit objet explosif. Certain, il arriva que les explosions empiètent un peu sur les barricades, hein, et les fassent s'écrouler partiellement, voire en totalité. Hein. Mais le secours du puissant druide fut plus que bienvenu, oui, car ainsi privés de renfort en amont, les morts vivants qui avaient déjà pu pénétrer dans le campement furent rapidement maîtrisés.
Ah merde, j'ai plus de balles.
Et voilà, celui-ci était le dernier. Bravo, garçon! La résistance est sauve!
Monsieur Berlu, enfin! Mais où étiez-vous? Et pourquoi nous avoir abandonnés?
Bonjour à vous, résistant. Et veuillez accepter toutes mes excuses, chers compagnons. Voyez-vous, je fus pris d'une vision. J'ai entrevu cette situation, la séparation du groupe, le sacrifice qu'il a coûté, et la bataille livrée ici. Et pour que le plan convenu se déroule au mieux, je me devais de n'intervenir qu'à cet instant précis.
Toujours aussi mystérieux, le vieux. Mais de quel sacrifice il parle, au juste?
En attendant, j'ai pénétré dans une apothèque à l'abandon pour confectionner ces bombes. Fort de l'expérience de mon combat contre les morts à Voisignal il y a 30 ans, je subodorais l'efficacité de la manœuvre.
Eh bien, je suppose que la résistance vous est redevable, enchanteur. Bien que votre résurrection me laisse perplexe.
Un court instant de silence à demi soulagé poignit alors. Aux alentours, les résistants portaient leurs morts et leurs blessés, ou se félicitaient pour certains. Mais nos 4 amis, le capitaine Thierry et le dernier sbire en vie de Colin pour leur part, miraient muets ces scènes se dérouler autour d'eux, sans trop savoir à qui il revenait de faire se poursuivre la discussion. Mais hélas, soudainement...
C'est ce que je craignais. Ce n'était que l'avant-garde.
Effectivement. Sous la consternation et le dépit général, la plupart des intersections de la petite place se voyaient peu à peu assombrir par l'approche patiente et déterminée de hordes bien plus conséquentes de zombies. Plusieurs milliers de têtes, oui. Une autre bataille ainsi s'enclenchait, et elle allait être bien plus dévastatrice.
Il vous reste combien de bombes au juste, monsieur l'enchanteur ?
Aucune, je le crains, jeune milicien. Il m'est hélas dû de vous aviser que le rôle de la résistance n'est pas de remporter cette bataille. Cependant, vous pourrez, vous tous, obtenir les honneurs une fois auprès des dieux et préserver vos efforts de la vanité en voulant bien nous accorder, à mes amis et moi, tout le temps et la diversion nécessaires que vous voudrez bien nous offrir. Il est à noter que Berlu fit cette demande en inclinant très respectueusement la tête, se tenant droit et honoré par la requête, au capitaine de réagir.
Eh bien, soit, enchanteur. Partez à l'assaut du palais, vos amis et vous. Et quelle que soit la source du mal que vous semblez escompter y trouver, je vous saurai gré de lui remettre le bon souvenir de la gente martiale de notre glorieuse cité.
Cela sera fait.
Filles des courbettes, aux armes, vous tous, pour la loi, le roi et l'ordre.
Tournant les talons, le capitaine Thierry galvanisa ses hommes et les mena jusqu'aux barricades pour affronter courageusement les forces de Marie-Gabrielle, et cela malgré une infériorité numérique plus qu'évidente.
J'ai traqué et triomphé seul de l'horrible créature invisible. Ce ne sont pas quelques clodos périmés qui vont me faire plier.
Alors que la garde, la milice et les derniers bourgeois de la ville tombaient dans leur dos, Berlu, Colin, Marianne et Binocle fuyaient discrètement en direction du palais, tâchant de passer par les chemins les plus ombragés, couverts et insoupçonnés. Car ils allaient devoir être d'une prudence sans faille, maintenant que, face au danger vers lequel ils se précipitaient, ils n'allaient plus pouvoir compter que sur eux-mêmes.